Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une semaine de rediffusion consacrée au 19e siècle que nous propose Franck Ferrand à partir d'aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Qui de plus désigné pour incarner le 19e siècle que le grand Jules Verne, qui dès 1863 imaginait ce que serait Paris au 20e siècle? On peut se demander jusqu'où le grand auteur était aussi un grand prospectiviste, c'est-à-dire un expert de l'avenir. J'ai demandé à notre ami Alain Sirou, le monsieur science d'Europe 1, de m'aider à trouver une réponse à cette question.
Et j'imagine qu'au passage, en vous connaissant, vous allez en poser quelques autres.
Hein. Oui, nous allons en effet scruter d'un peu plus près que d'habitude la biographie de Jules Verne, jusque dans ses zones d'ombre. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette émission, mais nous étions notamment penchés sur la tentative d'assassinat dont Jules Verne a fait l'objet et dont on ne parle généralement pas. Alors vous croyez connaître Jules Verne, eh bien vous allez voir qu'on ne connaît jamais vraiment ses amis.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
L'auteur du voyage au centre de la Terre, du tour du monde en 80 jours, de cette odyssée de la Terre à la Lune, de 20 000 lieues sous les mers, est ce qu'on appelle une gloire nationale. En tout cas, c'est peut-être pas forcément une gloire littéraire. Il n'a jamais été au même niveau, considéré en tout cas sur le même pied que ses contemporains Flaubert ou Maupassant, par exemple, pour ne rien dire de Victor Hugo. Mais c'est une gloire romanesque tout de même. Des rues, des écoles, une université portent son nom. Le grand restaurant de la Tour Eiffel aussi. Un tour opérateur anglais s'est intitulé Phileas Fogg, du nom donc du personnage du Tour du Monde en 80 jours. Dès 1954, le premier sous-marin atomique, qui était un sous-marin américain, a été baptisé du nom de Nautilus, et les amateurs d'exploits maritimes connaissent bien évidemment le trophée Jules Verne. On sait qu'aujourd'hui encore, un certain nombre de célébrités se réclament directement de cet univers vernien. Je pense à l'aventurier Bertrand Piccard, à la navigatrice Maud Fontenoy, au dessinateur François Schuiten, à notre ami le romancier Bernard Werber, par exemple. Bref, jamais Jules Verne n'a été davantage au centre des rêves de tous les grands enfants. L'image officielle de Verne, c'est celle d'un romancier prolifique, un bon bourgeois à la barbe blanche et au regard rieur, qui a fui les poisons parisiens pour s'installer tranquillement à Amiens, la ville de sa femme Honorine, dans une vaste maison cossue, ornée d'une tour et agrémentée d'une verrière. Le cabinet de travail du maître est au sommet de la tour, qui en fait sert de cage d'escalier. Vous avez là une table, une chaise, un fauteuil, une bibliothèque bien sûr, et un grand poêle pour les jours d'hiver. C'est le fils de Jules, c'est Michel Verne, qui a raconté comment travaillait son père. Il dit que le romancier rédigeait un certain nombre de pages au crayon, et puis que lorsque le moment était venu de se relire, il repassait tranquillement chaque mot à l'encre, en faisant les variantes nécessaires quand il avait envie évidemment de modifier une phrase. C'était un petit peu le traitement de texte avant la lettre, là encore. Et puis il envoyait le manuscrit à l'imprimeur, et il corrigeait encore 7 ou 8 fois sur épreuve. Vous imaginez comme les compositeurs de textes devaient être ravis. Et finalement, il donnait un bon à tirer une fois que tout était parfait. Alors, les journées de Jules Verne étaient très bien réglées. Le matin était consacré à l'écriture, l'après-midi à la promenade et à la lecture d'une presse abondante. Il ne faut pas oublier que c'était sa source d'inspiration, la presse. Il lisait tous les journaux, il notait les moindres bouts de coins d'articles à partir desquels naissaient les idées, bien entendu. Et puis, les soirées étaient consacrées tantôt à la politique municipale, car Jules Verne était élu, ou bien au théâtre, il ne faut pas oublier que c'est quand même la grande passion de sa vie, ou à une vie familiale et amicale, qu'on dit harmonieuse. En tout cas, tout ça, c'est pour le tableau idyllique fixé à l'âge de la maturité, c'est-à-dire à la fin des années 70 et dans les années 1880. Forcément, si vous creusez un petit peu plus, les choses paraissent moins réglées et entre nous plus amusantes. La face cachée du grand astre vernien, on la trouve explorée plus ou moins, notamment dans un ouvrage de Roger Mauduit dont j'avais déjà eu l'occasion de parler ici, qui était paru chez France Empire, une biographie inhabituelle qui présentait le double mérite, d'une part de faire le point sur tout ce qu'on sait de Jules Verne aujourd'hui, mais aussi de mettre l'accent sur un certain nombre d'aspects moins connus. Il apparaît ainsi que Jules Verne était sans doute un assez mauvais mari, qu'il était un père lointain, qu'il aura été sans doute aussi un mondain déçu et un auteur qui aura fini dans l'amertume, ce qu'on a tendance à ignorer. Alors on va voir, on a tellement raconté de choses sur Jules Verne qu'on va essayer de faire aujourd'hui le tri entre le bon grain et l'ivraie, entre ce qu'on peut réellement dire et ce qui relève de l'imagination ou de la jalousie, disons-le, des autres auteurs, car rarement de son vivant un auteur aura été autant jalousé qu'a pu l'être Jules Verne. Il est mort en 1905, Jules Verne, et c'est André Castelot qui nous raconte l'anecdote suivante. Le mardi 28 mars 1905, écrit André Castelot à Amiens, aux obsèques de Jules Verne, apparut un Anglais raide comme un pieu, un Anglais en tenue de voyage, casquette et Macfarlane, un Anglais aussi ému que pouvait l'être un Anglais figé dans sa respectabilité et serrant les mains de la famille Verne en répétant « Courage, courage dans la dure épreuve qui vous atteint ». Un murmure courut parmi les assistants, nous dit Castelot. « Phileas Fogg, c'est Phileas Fogg !» Jules Verne avait si admirablement réalisé ses rêves et donné la vie à ses personnages imaginaires que personne ne douta ce matin-là que le maître de Passepartout était venu de Londres pour s'incliner devant le corps de l'homme qui avait su révéler au monde son étonnant pari de clubman, faire le tour du monde en 80 jours.
La symphonie du Nouveau Monde, composée par Antonin Dvorak.
Oui, on est exactement dans l'époque et dans l'esprit, dans cette espèce d'extraordinaire pulsion. Alors, quand on aime Jules Verne, on ne peut pas faire l'économie d'une visite à Amiens, bien entendu, à cette maison de Jules Verne, dont le responsable, Bernard Sinoquet, est avec nous en ligne. Bonjour Bernard Sinoquet.
Bonjour.
Jules Verne attire toujours le public. Hein. Cette maison de Jules Verne est devenue un peu le... Comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est le lieu de rencontre des amoureux de l'auteur? C'est le conservatoire de la mémoire vernienne?
Oui, c'est un peu ça. C'est aussi un lieu pour tout public, pour découvrir. Parce que je pense qu'il y a maintenant aussi une jeune génération qui connaît moins Jules Verne et... C'est un lieu qui peut...
Oui, qui le connaît de manière indirecte, il faut dire, hein, à travers le cinéma, les dessins animés, etc.
Et moins à travers la lecture.
L'œuvre elle-même, oui.
Donc là, c'est aussi un lieu de découverte. Et puis oui, il y a un petit côté quand même, disons-le, il y a un petit côté sanctuaire.
C'est ça.
C'est la maison dans laquelle il a vécu. Donc il y a un côté lieu de mémoire très fort, mais aussi lieu où on permet quand même d'accéder non seulement à la connaissance de la vie de l'écrivain et à la connaissance de son œuvre.
On monte jusqu'au cabinet de travail de Jules Verne.
Oui, tout à fait.
On a l'impression de partager son intimité. Alors, est-ce que ce Jules Verne avait la vie aussi réglée, aussi bourgeoise, aussi classique que ce que j'ai pu dire dans l'introduction de cette émission? Est-ce que finalement, c'était un homme parfaitement prévisible dans sa vie quotidienne?
Disons oui, surtout vers la fin de sa vie, à partir des années 1880. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il a, ça c'est disons à partir de 1886-87, où il a vraiment une vie très très régulière.
Après le fameux attentat dont on dirait un mot tout à l'heure.
Tout à fait. Avant, il a quand même une vie qui mérite de s'y arrêter. Quoi. Donc ça a quand même été quelqu'un qui a voyagé. Hein. Il a
grand voyageur.
Un grand voyageur, oui. Il a fait à l'époque, hein, il faut se placer dans le contexte de l'époque, il a fait des voyages en Écosse, en Scandinavie.
Il faut dire qu'il avait un yacht, enfin il en a eu plusieurs, le Saint-Michel 1, 2, 3.
Le 3, hein. Oui. Alors, donc il a appelé ça le Saint-Michel, donc en honneur de son fils.
De son fils,
Michel.
Oui.
Hein, voilà, et avec entre autres le dernier bateau, hein, qui était quand même, c'était un moment où son œuvre le faisait bien vivre. Hein, donc il était un bateau de 33 mètres avec 10 hommes d'équipage. Et là, il a fait plusieurs grandes croisières, hein, deux grandes croisières en mer du Nord. Et deux grandes croisières, surtout deux grandes croisières en Méditerranée, dont la dernière en 1884, étant donné la popularité de l'écrivain, s'est apparentée à une visite de chef d'État.
Finalement, on imagine comme ça, a priori, Jules Verne passionné d'instruments scientifiques, etc. Alors, on va voir dans un instant avec Alain Cyrou ce qu'il en était. On se rend compte que ses deux grandes passions dans la vie, c'était essentiellement le voyage, d'une part, ça bien sûr, oui. Et les régates, et puis le théâtre. Il était demeuré un homme de théâtre.
Ah oui, c'est-à-dire qu'au départ, sa première envie de très jeune écrivain en 1850, c'est d'écrire pour le théâtre, c'est d'écrire pour le spectacle. D'ailleurs, ça le poursuivra jusqu'en 1862, où il commence d'abord à réfléchir à faire opérer un tournant à sa carrière. Il va écrire 5 semaines en ballon, puis
ben oui.
Du XXe siècle, hein, comme vous l'avez signalé. Mais c'est d'abord été ça. Et en fait, quand il s'installe à Amiens, il continue de garder cette passion pour le théâtre. D'ailleurs, il va faire adapter plusieurs de ses romans pour le théâtre, hein, Le Tour du Monde, Michel Strogoff, Mathias Sandorf. Et quand il va être conseiller municipal, la première chose qu'il va demander, c'est d'être dans la commission de surveillance du théâtre municipal.
Et oui, et donc il va devenir un élu culturel, en quelque sorte, de la ville d'Amiens.
Oui.
Alors, il faut peut-être expliquer à nos auditeurs pourquoi il était venu s'installer à Amiens.
Alors, il est venu s'installer à Amiens d'abord parce que son épouse est originaire d'Amiens.
Voilà,
en fait.
Oui.
Donc en 1856, il va venir à Amiens assister à un mariage, d'un de ses amis. C'est là qu'il va rencontrer Honorine, qui à l'époque a 26 ans. Elle vient de perdre son premier mari. Elle est mère de 2 enfants. Il en tombe amoureux et donc ils se marieront en 1857. Ils vont d'abord vivre à Paris, mais Honorine ne goûte pas très bien la vie parisienne, hein, trop agitée à son goût. Et en fait, progressivement, elle va l'amener à s'orienter vers la Picardie, d'abord en passant des séjours de vacances en baie de Somme.
Et puis, de plus en plus.
Et en 1871, là, je pense que la question de confiance est posée par Honorine et il s'installe à Amiens. Donc, à partir de 1871, ils iront.
Et l'hôtel particulier qu'on visite, c'est celui qu'il a occupé, de 1882 au tournant du 21e siècle, hein, du
oui,
20e
voilà.
siècle, pardon.
Oui, voilà.
Et c'est un hôtel particulier qu'il louait en vérité.
Oui, voilà. Donc, il était déjà propriétaire d'une maison bourgeoise classique, pas très loin d'ailleurs de cet hôtel particulier. Alors, il en a été locataire, je pense, parce que. Il est peut-être resté prudent sur l'investissement malgré que l'argent rentrait bien, que les droits d'auteur rentraient bien. Et en fait, il voulait surtout avoir un logement à la hauteur de sa réputation, de son standing.
Un logement dont les décors, en tout cas tout le décor mural, est resté en place.
Hein. Ah oui, nous avons surtout au rez-de-chaussée, nous avons des décors muraux qui sont restés en place. Et en fait, nous avons aussi... par ailleurs, pu collecter suffisamment d'archives iconographiques pour pouvoir reconstituer son cabinet de travail à l'endroit où il se trouvait. Mais on n'a pas pu, la maison a connu après Jules Verne d'autres occupants.
Bien sûr, oui.
Donc forcément,
il y a
eu des transformations. Mais c'est vrai que le rez-de-chaussée, le jardin d'hiver, la salle à manger et le grand salon sont restés vraiment dans le décor tel que Jules Verne a pu le connaître. Et c'est vraiment un moment d'émotion, quoi. Là,
ah oui, vraiment.
On a, voilà.
Je confirme. Merci beaucoup Bernard Sinoquet. Je rappelle que vous êtes le responsable de la maison de Jules Verne à Amiens, de rue Charles Dubois, une maison qui fait partie du réseau des bibliothèques d'Amiens Métropole.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Sur Europe 1 du générique de la série télé de l'ORTF en 73
ah
avec
oui, ça,
Omar Sharif.
Ça s'entend. Hein.
L'île mystérieuse, oui, mais c'est un petit charme, un
oui,
petit peu désuet.
Un journaliste américain qui en 1894 lui demandait d'où venait sa passion pour les sciences, voilà ce que répond Jules Verne, ça c'est assez étonnant. « Non, dit-il, je ne peux pas dire être particulièrement intéressé par la science. » Pour tout vous dire, je ne l'ai jamais été, c'est-à-dire je ne l'ai jamais étudié. C'est assez inattendu comme réponse. Et pour les précisions scientifiques dont il avait besoin, on sait que Jules Verne faisait appel à ses amis, notamment un ami ingénieur des mines, à son frère aussi qui était officier de marine, c'est lui qui va avoir l'idée du Nautilus. On peut dire que les machines de Jules Verne font rêver, mais qu'il ne faut sans doute pas trop les réduire à des anticipations visionnaires. Il faut, comme dit François Raymond, y voir ce qu'elles sont en fait, c'est-à-dire de pure fiction chargée d'imaginaire jusqu'à la gueule. Bonjour Alain Siroux.
Bonjour Franck,
merci,
bonjour
Julien. Merci bonjour, d'être avec nous et de nous donner votre regard d'expert sur la dimension scientifique d'une œuvre pareille. Finalement, on a l'impression qu'elles sont bien imaginaires, hein, bien fantaisistes, les inventions de Jules Verne.
Alors, on a confondu l'homme, l'auteur, avec son sujet.
C'est ça.
C'est pas un scientifique, c'est le premier à raconter la science. C'est le premier à en faire une histoire extraordinaire, comme dira son éditeur. Et c'est extraordinaire ce qu'il a fait, c'est-à-dire 62 romans, 18 nouvelles, 5000 illustrations absolument incroyables.
Et oui, il ne faut pas oublier tout cet aspect-là qui a joué un rôle important.
Presque de la bande dessinée.
Bien sûr.
Dans un monde qui est un monde qui vit une révolution industrielle avec les transports, la découverte du monde, la découverte des espaces infinis, l'électricité, la communication. Et vous l'avez dit, Jules Verne, c'est un grand lecteur. Je dirais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui lirait toutes les revues scientifiques qui passent en kiosque, qui regarderait Wikipédia et qui, à partir de ce matériau d'une richesse extraordinaire, parce que tout est en devenir, se met à écrire des histoires où il mêle en fait des mythes, des légendes, des choses vraies.
Une sorte de fantasme de progrès finalement.
Extraordinaire, où il invente en plus une image du savant qui est une image qui est vernienne. On parle de savant vernien parce que le savant tel qu'il l'imagine est un être qui n'existe pas et qui n'existera pas dans le futur. C'est un homme qui n'a pas fait d'études, c'est un homme qui sait. Tout simplement, je dirais que la connaissance lui est tombée dessus comme la foudre sur l'arbre. Et à partir du moment où il sait, alors il a le droit à tout, il peut tout faire. Et donc cette image du savant vernien est une image qui déjà à l'époque est fausse puisque la science et la technique vont se développer parce que les hommes vont travailler ensemble.
Ah oui, et donc ce ne sont pas les démiurges qui ont fait les inventions.
Non.
Alors quand même, on trouve dans l'œuvre de Jules Verne des espèces de fulgurances. Hein. Il fait voyager des personnages jusqu'à la Lune, il envisage l'existence de l'hélicoptère. Alors c'est vrai qu'on a le fameux dessin attribué à Léonard de Vinci qui laisse entendre que lui-même, dès le 15e siècle, dès la fin du 15e siècle, avait eu cette idée. Il imagine le deltaplane. Dans son œuvre, on peut glaner un certain nombre d'inventions comme le visiophone, le moteur électrique, le scaphandre autonome, tout ça, c'est quand même, ça, il faut bien reconnaître que ce sont des idées, des intuitions de Jules Verne.
Ce sont des choses qu'il a, je dirais, attrapées dans ses lectures. Si vous restez, par exemple, sur Le voyage de la Terre à la Lune,
oui,
qui va être une œuvre, je dirais, lue jusqu'au XXe siècle avec énormément de passion par plein de gens et qui va motiver plein de gens, vous vous rendez compte que c'est extrêmement approximatif et en même temps extrêmement créatif. C'est-à-dire que, alors le créatif d'abord, il imagine un canon qui va dans un obus, avec un obus, je veux dire, envoyer les hommes sur la Lune. Ce canon, vous savez où il est installé ? Il est installé en Floride, très très près de Cap Canaveral.
C'est incroyable ça quand même, oui.
Et les astronomes qui suivent avec leur télescope le voyage de cet obus sont installés, eux, au Mont Palomar, là où Hubble va observer la fuite des galaxies.
C'est étonnant, oui.
Etc, etc. Mais quand vous regardez dans le détail l'explication scientifique de Jules Verne, alors c'est plein de trous, c'est très mité parce que on se rend compte, par exemple, qu'il ne s'est pas posé la question du départ de l'obus. Personne dans un obus ne résisterait à la pression et à la vitesse de départ. Les voyageurs seraient écrasés. L'atmosphère n'est pas un problème pour aller jusqu'à la Lune. Et puis d'ailleurs, le vide non plus n'est pas un problème. On jette les ordures en ouvrant rapidement la fenêtre, vous vous rendez compte, en disant, ça devrait suffire. Et puis, la pesanteur non plus n'existe pas chez Jules Verne.
Vous n'avez pas pensé à ça, oui.
Non, on boit un petit coup avec un verre, alors que Tintin, Hergé, alors que l'homme n'est pas encore allé sur la Lune.
On est presque un siècle plus tard.
Plus tard, il a quand même un capitaine ad hoc qui flotte avec
une boule
de whisky.
Oui, ça c'est merveilleux. Mais évidemment, du temps de Jules Verne, on n'avait peut-être pas la même familiarité avec ces nouveaux éléments et avec ces nouvelles contraintes.
Alors, on les connaît, mais Jules Verne ne les connaît pas.
C'est ça, Jules Verne
n'est pas un scientifique. Jules Verne est un littéraire, c'est un conteur. N'oubliez pas sa maxime, s'amuser en s'instruisant et s'instruire en s'amusant.
C'est pour ça qu'on a dit qu'il était un vulgarisateur. Non, il est l'inverse d'un vulgarisateur. C'est-à-dire
absolument
que ce n'est pas quelqu'un qui connaît la matière et qui la rend accessible. C'est quelqu'un qui ne connaissant pas la matière, fait rêver sur elle. C'est
absolument
l'inverse, en fait.
Il écrit les romans de la science.
Voilà.
C'est-à-dire, alors on dit souvent aujourd'hui, c'est Michel Serres qui le dit, hein, en disant « il nous manque un Jules Verne aujourd'hui ». quelqu'un capable de faire une utopie, un monde utopique avec tout ce dont on dispose aujourd'hui, tous les ingrédients qui pourraient donner un formidable monde en devenir.
Il nous manque un Jules Verne pour susciter tout simplement peut-être des vocations. D'ailleurs, tout à l'heure, si vous le voulez, Alain, on va parler de toutes ces grandes vocations qui ont été tout simplement suscitées par la lecture des romans de Jules Verne. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne évidemment sur son existence et sur son incroyable parcours.
Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck sur Europe 1 qui revient maintenant sur la vie de Jules Verne.
Et oui, alors on était à Amiens, on va descendre un peu si vous voulez, on va repartir pour Nantes. Et on peut se demander qui aurait pu miser à l'époque où Jules Verne est encore petit sur ce fils aîné d'une famille nantaise, famille de 5 enfants. Un fils aîné qui, dès le berceau, a été promis au départ à une carrière toute tracée. Il faut dire qu'il est né donc en 1828 sur l'île Feydeau. Cette île Feydeau, vous savez, à Nantes, qui avait été peu à peu comblée, hein, qui a rejoint l'agglomération, si l'on peut dire. Et il a été voué d'emblée à prendre la succession de son père en reprenant la charge d'avoué, la charge familiale, ce qui fait qu'il va devoir faire des études de droit. Alors il les réussit, ces études de droit, il les effectue à Paris, loin du cocon familial. Il arrive d'ailleurs à Paris, c'est très important ça, il arrive en 1847, c'est-à-dire à la toute fin de la monarchie de Juillet, juste avant la fameuse révolution de 1848 qui va non seulement chasser Louis-Philippe du trône, mais créer une sorte de déflagration à travers toute l'Europe. C'est le printemps des peuples, hein, et c'est un moment qui a marqué évidemment beaucoup la conscience de Jules Verne. Il a 23 ans, le jeune Verne, quand il décide de casser le moule, si je puis dire, et de rompre avec le modèle familial. Il faut dire qu'à l'époque, il a déjà fait jouer une pièce, Les Pailles rompues. Il a fait jouer cette pièce grâce à Alexandre Dumas fils. Et il faut jamais oublier l'influence, hein, de ces familles littéraires extrêmement puissantes qu'auront été les Hugo, les Dumas, etc. à cette époque. Les Dumas, père et fils, vont tenir littéralement à bout de bras le tout jeune Jules Verne. Ils l'encourageaient au moins dans ses débuts. Il décide de se consacrer au théâtre, nous l'avons dit tout à l'heure. Il trouve une place de secrétaire au théâtre lyrique. Il ne s'agit en fait, on peut dire qu'il ne s'agit pas d'une lubie de sa part, hein. C'est une véritable décision. Il a toujours écrit des poèmes, des nouvelles, des pièces de théâtre, des chansons. Son père l'avait fait avant lui, il faut dire. Et à propos de sa vocation, d'ailleurs précoce, il a cette phrase qui me semble admirable. C'est parce que je sais ce que je suis que je comprends ce que je serai un jour, dit-il. En vérité, il s'est un peu trompé néanmoins sur ce qu'il allait devenir, et ce sera toute la raison de l'amertume d'une fin de vie dont je parlais tout à l'heure. L'exemple de Victor Hugo, qu'il admire beaucoup, lui a donné ce courage de rompre, et cependant, l'inspiration elle-même, ce sera chez un Edgar Poe, par exemple, qui la puisera. Il y a un caractère fantastique dans l'écriture vernienne, il y a quelque chose de volontairement extraordinaire. Tout cela, disons-le, nourrit quand même assez mal son homme. Or, les besoins matériels de Jules Verne vont s'accroître soudain parce qu'en effet, lors d'un petit voyage à Amiens pour le mariage d'un ami, il a donc fait la connaissance de celle qui va devenir sa femme, Honorine Morel, une jeune veuve qui a déjà 2 petites filles. Il l'épouse le 10 janvier 1857 et 4 ans plus tard, à Paris, où ils habitent encore à l'époque, va naître leur fils unique, Michel. Donc Michel a deux demi-sœurs. Le couple et les 3 enfants vont s'installer, nous l'avons dit, par la suite. Alors d'abord au Crotoy, et puis après les événements de 70-71, après l'effondrement du Second Empire, ils iront s'installer à Amiens même. Voilà donc Verne marié, père de famille, casé dans un métier prenant. On est là assez loin du marchand de rêve. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avant ça, en 1862, il avait 35 ans, Jules Verne s'était dit qu'il était grand temps de franchir le pas. Il était plutôt content de ses récits de voyage en ballon, etc. Il va proposer sa prose à l'éditeur qui compte en matière de publication pour la jeunesse à l'époque. C'est Pierre-Jules Hetzel. Ça, c'est fondamental. La librairie Hetzel se situe rue Jacob. Et on peut dire que l'irruption d'Hetzel dans la vie de Jules Verne va tout changer. C'est lui qui désormais va être le grand gourou de cette œuvre-là, et c'est lui qui va piloter, si je puis dire, Jules Verne et l'amener vers ce qu'attend le public. D'abord 5 semaines en ballon, on l'a dit, et puis peu à peu tous ces grands textes qui bien sûr vont faire la fortune de leur créateur. Cette intervention donc de Jules Hetzel dans le parcours de Jules Verne est décisive. En quelques mois, on peut dire que Hetzel a fait de ce qui était un écrivain débutant, hein, disons-le, il en a fait une véritable célébrité. Il lui a appris à devenir didactique, à être constamment positif et à être, on dirait aujourd'hui, grand public ou commercial, si vous voulez. Non seulement Verne va bientôt se trouver plus ou moins prisonnier du projet éducatif de Hetzel, mais il doit se plier à ce que l'éditeur pense être, sans doute à juste titre, la clé du succès. C'est Hetzel qui, après 3 tomes, a l'idée de donner un titre à la série des romans de Jules Verne, dans ce nouveau genre. Il appelle ça « Les voyages extraordinaires », un titre qui va faire rêver tant et tant de générations de jeunes lecteurs. Alors, bien sûr, d'un côté, Jules Verne se plie aux exigences de Hetzel, mais il n'en truffe pas moins ses textes de clins d'œil, de messages secrets, d'anagrammes, etc. C'est un amoureux du cryptogramme, Jules Verne. Il aime qu'on puisse lire son texte à 2, voire parfois même à 3 niveaux. Mais attention, la censure de Hetzel, si je puis dire, est là. Et d'ailleurs, elle est tellement présente qu'elle finit par peser à cet homme qui cherche un moyen de s'y soustraire. Et c'est sans doute une des grandes raisons de son installation à Amiens, plus que toute autre raison. Il est de bon ton de dire que Jules Verne avait été un grand voyageur en rêve. Nous avons vu tout à l'heure avec Bernard Sinoquet qu'il était un véritable voyageur. Autant que le goût de la grande technique et que celui des arts et de la musique, Jules Verne aura cultivé ce sens du voyage qui littéralement irrigue, innerve toute sa prose. Devant nous se déroule le décor universel, écrivait un journaliste en 1906 pour le premier anniversaire de la mort de Jules Verne. Nous prenons possession de toute la terre, de tout le firmament. Mieux encore, nous prenons conscience du cosmos, comme le chanteront un peu plus tard les compagnons de la chanson.
Monsieur Jules Verne, dans ta giberne, tu as mis le monde entier. Monsieur Jules Verne, sans balivernes, tu nous as tous fait rêver. Dans tes histoires, avec la gloire, le Nautilus est entré. Et sur la lune, toi à la lune, tu t'étais déjà posé. Escaladant les montagnes, dans des pays de cocagne, tous les enfants se rejoignent, dans tes châteaux en Espagne.
Alors, pendant une 12aine d'années, les chefs-d'œuvre vont s'accumuler. Les 2 plus célèbres, ça restera bien sûr 20 000 lieues sous les mers et le tour du monde en 80 jours. Et puis, Verne reconnaît que les grands sujets lui font défaut et qu'il doit recourir à ce qu'on appelle, à ce que lui-même d'ailleurs appelle la combinaison. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait les grands sujets qui s'imposaient, ben, il faut jouer avec le reste. Je n'ai plus de sujets dont l'intérêt soit dans l'extraordinaire, écrit-il. Ballon, capitaine Nemo, etc. Il me faut donc chercher à intéresser par la combinaison. Évidemment, je me tiendrai toujours dans le géographique et le scientifique puisque c'est le but de l'œuvre entière. Mais que ce soit l'instinct du théâtre qui m'y pousse ou que ce soit pour prendre d'avant notre public, je tends à corser le plus possible ce qui reste à faire de roman. En 1886, son propre neveu, le fils de Paul Verne, va commettre un attentat contre sa personne. Il reçoit à ce moment-là une balle dans la cheville, ce qui va l'empêcher de continuer à naviguer notamment. Et une semaine plus tard, c'est Hetzel qui disparaît et Jules Verne dira « J'entre dans la série noire de ma vie ». Alors que s'est-il passé notamment en ce mois de mars 1886 à Amiens? Qu'y a-t-il eu? Pourquoi ce neveu a-t-il tiré sur son oncle? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir dans un instant.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Et nous entrons, comme il l'a qualifié lui-même, dans la série noire de la vie de Jules Verne.
Eh oui, c'est cet événement donc du printemps 1886. Alors, évidemment, dans son ouvrage sur la face cachée de Jules Verne, Roger Mauduit s'est penché sur la question. L'affaire est ténébreuse, dit-il. Jules Verne aura plusieurs versions contradictoires à propos de cette tentative d'assassinat. Sa biographe, Marguerite Allotte de la Fuye, sera ici d'une extrême discrétion. Gaston, c'est le grand secret embarrassant de la famille Verne, à un point tel que l'on ne sait même pas exactement où et quand est mort Gaston Verne. Certains, comme Charles-Noël Martin, pensent qu'il est mort en Angleterre en 1940. De Kiss, grand spécialiste de Jules Verne aussi, pour sa part, avance qu'il est mort au Luxembourg pendant la Grande Guerre. Et là, Roger Mauduit ajoute « Un rapport de police permet de mieux cerner les faits. Jules Verne rentre chez lui ce soir-là comme d'habitude à 17h30. Il est à pied. Alors qu'il est devant le portail de sa maison, surgit un homme qui tire 2 balles. Une se loge dans le portail, la seconde atteint Jules Verne à la cheville. À quelques mètres seulement, voilà un bien piètre tireur. » C'est vrai que s'il avait vraiment voulu le tuer, enfin, ça paraît bizarre. Disons. On arrête l'agresseur, on le reconnaît, scandale. C'est le neveu qui a tiré sur l'oncle. Alors bien vite, on va dire, dans la famille, on dit que le neveu est fou. Fou ! Demande Roger Mauduit. Il avait fait de brillantes études. Il était entré au ministère des Affaires étrangères. Sur lui, il avait un billet de train pour Calais, selon certaines sources, pour Lille, selon d'autres. Il semble qu'il s'apprêtât à gagner l'Angleterre. On a donné de multiples explications. L'oncle aurait refusé de prêter de l'argent à son neveu. Le neveu aurait été jaloux du succès de l'oncle ou des personnes qu'il avait favorisées par ailleurs. L'oncle aurait eu des gestes déplacés envers le neveu, puisqu'on sait qu'un des policiers avait parlé d'une affaire de mœurs, et il n'y aurait en vérité, nous dit Roger Mauduit, peut-être ni oncle ni neveu, mais un père et un enfant naturel. Tout ça reste bien mystérieux. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Toujours est-il que pour Jules Verne, ça a été une sorte de coup d'arrêt. Alors, les derniers romans, je pense au Château des Carpates, au Sphinx des Glaces, la suite du roman d'Edgar Poe d'ailleurs, ont toujours les mêmes qualités, grandes qualités littéraires, mais évidemment, ils sont moins faits pour un jeune public. Ce sont des romans assez sombres, il faut bien le dire. Et de l'autre côté, l'autre public, c'est-à-dire les adultes, ne viennent pas vers Jules Verne pour autant. Et ça aurait été le vrai regret de sa vie, ne pas être reconnu comme un grand écrivain pour adultes, en quelque sorte. Un de ses rêves aurait été notamment d'entrer à l'Académie française. Malgré plusieurs approches, malgré l'appui officiel de Dumas fils auprès des académiciens, il n'a pas réussi. Ce sera le regret de sa vie de n'être pas parvenu à s'imposer à ses contemporains comme autre chose qu'un auteur pour la jeunesse. Alors, visionnaire peut-être, mais pas assez sérieux, peut-être pas assez profond. Quelle erreur, puisque lorsqu'on connaît l'œuvre de Jules Verne, on se rend compte qu'elle est pleine de profondeurs insoupçonnées. Les dernières années sont aussi assombries, disons-le, par la mésentente qui règne dans la famille du fait des incartades du fils, hein, Michel, qui est fâché à mort avec ses demi-sœurs. Il avait épousé une comédienne du théâtre d'Amiens. Après la mort de son père, Michel Verne, poussé à son tour par le fils de Hetzel, va publier un certain nombre d'ouvrages posthumes. Ils sont, disons-le, clairement dénaturés et ces publications s'effectuent dans une indifférence de plus en plus générale. Il aura fallu attendre la fin du XXe siècle pour que la critique s'intéresse sérieusement à Jules Verne et pour que son œuvre soit enfin considérée dans toute sa richesse et dans toute son incroyable complexité. Encore ne dispose-t-on en français d'aucune édition critique qui soit réellement poussée. Finalement, la vraie postérité de Jules Verne, c'est peut-être dans les vocations qu'il a suscitées qu'il faut aller la chercher. Car, et ça c'est extraordinaire, cet homme-là aura ouvert littéralement des horizons à toute une génération d'explorateurs et de scientifiques. On se rappelle quel avait été le destin de l'ouvrage du Livre des Merveilles de Marco Polo qui avait donné envie à toute une génération d'aventuriers d'aller conquérir le monde. Et on se rappelle que Christophe Colomb, à son chevet, sur la Santa Maria avait le livre de Marco Polo. Eh bien, c'est un peu la même chose qui va se passer au début du XXe siècle avec Jules Verne. Il aura été un véritable éveilleur de vocation. Ce n'est peut-être pas la réputation dont il avait rêvé. Avouez que c'est une réputation qui en vaut largement quelques autres. Le professeur Richet disait en 1929 « Jules Verne a donné aux adolescents l'amour des choses scientifiques. Il leur a inspiré des audaces aventureuses. » Ça a été votre cas, Alain Sirou? Jules Verne a fait naître en vous cette vocation que l'on admire aujourd'hui?
Oui, je crois. Je crois parce que moi, j'avais lu « Voyage au centre de la Terre » et c'était extraordinaire. Enfin, c'est un souvenir que j'ai conservé toute ma vie et que j'ai revu ensuite avec plaisir au cinéma, etc. Et beaucoup de gens avec lesquels j'ai discuté, en particulier dans le domaine spatial, avouent avoir lu Jules Verne. Et Tsiolkovsky, qui était le père des fusées russes, hein, disait que ça l'avait vraiment fortement inspiré. Alors, il y a plein de raisons à ça. La première, c'est qu'effectivement, c'était d'abord des beaux livres. C'est-à-dire que ce sont les livres qu'on remettait à la fin de l'année dans les écoles,
eh oui,
au prix d'honneur.
C'est vrai que les reliures étaient somptueuses. Merci Hetzel. Hein,
magnifique, absolument. Il y avait de l'image, il y avait de l'histoire, etc. Ça, c'est vraiment une chose extraordinaire. La seconde chose, c'est qu'il y a une foi vernienne, comme on dit, qui est que la science explique tout. C'est-à-dire que c'est une grille de lecture du monde. Et à travers la science, finalement, on pense que on va pouvoir décoder les mystères qui nous entourent. Et l'univers de Verne est plein de mystères. C'est qu'y a-t-il au centre de la Terre? Qu'y a-t-il dans l'espace? Qu'est-ce qu'il y a au fond des mers? Et si on monte dans l'atmosphère, etc. C'est-à-dire que il réveille finalement les grandes interrogations de la science, même s'il s'intéresse peu aux vivants ou à un certain nombre de sujets, mais il est dans une époque où, je dirais, le merveilleux, c'est la découverte du monde qui nous entoure, avec cette idée, par exemple, on est à la radio aujourd'hui, qu'on ne sait pas comment se transmet la voix. Qu'est-ce que c'est que l'éther? Comment ça se supporte? On a encore aujourd'hui, je dirais, ces émotions-là qui sont de comprendre le monde dans lequel nous sommes. Et puis peut-être la dernière chose, c'est que finalement, à travers ces personnages, que ce soit des explorateurs, que ce soit des ingénieurs, que ce soit de futurs scientifiques, il y a l'idée que chacun peut avancer dans une aventure et être un des acteurs, un des auteurs de cela. Et que même en étant un ingénieur, je dirais, dans le boulon, dans le détail, dans le clou, finalement, il peut peut-être vivre une grande aventure lui aussi, parce qu'il sera associé à une grande œuvre qui est l'œuvre de la découverte.
C'était valorisant,
absolument,
finalement.
Absolument, exactement. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est-à-dire, je dirais que c'est pas de l'optimisme à tout craint, mais c'est peut-être une façon d'enchanter le monde à travers des choses qui aujourd'hui sont peut-être plus vécues comme des dangers, des peurs, mais qui, à l'époque, au moment de la révolution industrielle, de la découverte des outils scientifiques, donnaient une foi dans le progrès, et en tout cas l'espoir d'un monde meilleur.
Et c'est vrai que moi j'ai commencé des études scientifiques, je suis pas allé très loin dans ce domaine, mais enfin je sais à quel point c'est aride, difficile, oui, abstrait. Et si l'on n'a pas pour se donner envie, si l'on n'a pas quelques éléments poétiques, évidemment on risque de rester un peu en cale sèche.
Hein, n'oubliez pas qu'il passe le relais lorsqu'il disparaît, 1905, c'est l'année où Einstein et signe les trois articles qui vont révolutionner le monde avec la relativité générale, la mécanique quantique, c'est-à-dire que il y a une déstructuration de l'espace.
C'est plus tout à fait la même science.
Plus du tout. Et là, on passe, je dirais, d'un monde technique à un monde très différent qui sera une révolution aussi.
Alors ça, c'est pour tout ce qui concerne évidemment la science, mais n'oublions pas le côté voyageur. Après tout, la collection s'appelle Les Voyages Extraordinaires, et c'est vrai qu'il était avant tout peut-être un voyageur, un explorateur en chambre, même si on a vu qu'il aimait voyager lui-même, ce Jules Verne, c'est l'explorateur Hurst qui disait « Nous fûmes et sommes encore tous entraînés par Jules Verne ». Quant à Charcot, hein, Jean Charcot, le fils du professeur Charcot, celui qui, sur le pourquoi pas, vous savez, fera ses explorations polaires extraordinaires et qui laissera la vie d'ailleurs, Jean Charcot écrivait « La bibliothèque du pourquoi pas contient tous ses ouvrages », il parlait de Jules Verne bien entendu, « et non seulement je les vois entre les mains de l'état-major, mais ils sont souvent demandés aux heures difficiles par les hommes de l'équipage. »
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Je suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur.
Je t'y passe partout, je fais un peu de tout. Moi je suis typo, partout je les suis.
Je suis Romy, princesse hindoue, et Fogg est l'homme de ma vie.
Je suis Phileas Fogg et en 80 jours un tel pari.
Le tour du monde en 80 jours, c'est le générique du dessin animé diffusé sur Antenne 2 à partir de 1983.
On vous voyait danser, on voit les gens danser en régie.
C'est-à-dire quand j'écoute ça, j'ai 5 ans. Ah, voilà. Comme les gens en régie, comme Guillaume d'ailleurs, qui est trentenaire aussi.
Alors, nos auditeurs réagissent et notamment là, ils me donnent deux précisions, pour ne pas dire des correctifs, mais ils ont raison. Pour ce qui est du rôle de Jules Verne comme conseiller municipal à Amiens, il est à l'origine, nous explique Pascal, de la faculté, hein, de l'université d'Amiens, parce que le maire voulait fermer l'école de médecine qui coûtait trop cher et qui du reste formait des médecins qui ne restaient pas à Amiens. Et c'est Jules Verne qui, au cours d'un discours particulièrement brillant, a finalement mis le maire en minorité et a sauvé l'école de médecine. C'est ce qui sera le premier établissement universitaire d'Amiens, nous explique Pascal. Et puis Alain me fait observer très justement que l'île Feydeau, dont on parlait tout à l'heure à Nantes, et vous avez remarqué ma légère hésitation sur le sujet, je ne savais plus si à l'époque l'île Feydeau était encore une île ou si elle était déjà devenue un quartier de Nantes. Eh bien oui, nous explique Alain, à l'époque elle était toujours une île sur la Loire. Elle n'a rejoint les rives de Nantes que entre les années 1929 et 1946, quand ont eu lieu les travaux de comblement. Alors on était dans ce dessin animé qui visiblement a marqué toute notre équipe, le Tour du Monde en 80 jours. Et vous n'oubliez pas évidemment que ce roman a d'emblée été adapté au théâtre, que ça a été un très grand succès au théâtre, non seulement en France mais en Angleterre et on peut dire à partir de là dans le monde entier. Et là, actuellement même à Paris, c'est le succès des succès puisqu'on a fêté la 2000e représentation du Tour du Monde en 80 jours, un spectacle de Sacha Danino et Sébastien Azzopardi. Sébastien Azzopardi en assume non seulement la mise en scène, mais aussi la promotion, puisqu'il est avec nous au téléphone. Bonjour Sébastien Azzopardi.
Oui, bonjour.
Merci de trouver un moment pour nous parler de ce spectacle, le Tour du Monde en 80 jours. Finalement, vous réactualisez Jules Verne, vous?
Alors en fait, je ne me suis pas servi de l'adaptation qu'il a faite lui-même pour le théâtre.
C'est ça.
Qu'il avait fait effectivement une adaptation, mais c'était une adaptation grand spectacle, avec beaucoup de machinerie, un bateau sur scène, voilà, il représentait des naufrages et ça avait eu beaucoup de succès justement parce que c'était du grand spectacle et que c'était évidemment pas la coutume.
Oui, c'était un peu le genre de spectacle pour le Châtelet, etc., avec des machineries, voilà, des transformations, des décors incroyables, etc. Vous avez pris le contre-pied de ça en fait.
Exactement, donc il a fallu remplacer l'aventure par de la comédie parce qu'effectivement, voilà. Au départ, quand moi j'ai lu Le Tour du Monde en 80 jours, je cherchais un récit de voyage pour le transposer au théâtre, parce que c'était ça qui m'intéressait, c'était de traiter le voyage au théâtre. Et évidemment, le Tour du Monde en 80 jours s'est imposé de lui-même, comme voyage ultime.
Ce qui est passionnant dans ce projet-là, c'est que par essence, le théâtre est un lieu statique, qu'on le veuille ou non, et que là, il faut donner constamment l'impression du dynamisme, de la progression, de l'évolution dans l'espace. Ça, c'est...
Oui, parce que Fogg est en mouvement perpétuel.
C'est ça.
Il ne s'arrête jamais. Et c'était justement ça qui était intéressant, dans un lieu clos, petit au départ, parce que le Tour du Monde en 80 jours, aujourd'hui, il est au Splendide, mais quand on l'a lancé, c'était au Lucernaire,
oui, oui.
Une petite salle. Et il fallait donner cette impression de mouvement perpétuel dans une petite salle et avec très très peu de moyens. Et ce qui était justement intéressant, c'était de demander aux acteurs de faire vivre le train, la mer...
À cinq personnes, tout ça, hein.
Oui, oui, ils sont cinq et ils jouent tous les rôles. Évidemment, il y en a un qui fait Phileas Fogg, un autre Passepartout, la comédienne fait la princesse hindoue Aouda, et puis il y a un personnage qui fait Fix, l'inspecteur de police après Fogg, et puis qui fait aussi d'autres personnages, et puis un acteur qui fait pratiquement tous les autres personnages qu'il rencontre. Et évidemment,
Passepartout et Phileas Fogg, ce sont de beaux personnages, ce sont des figures de théâtre, c'est assez facile à camper, si je puis dire.
Alors, effectivement, si on enlève le spectaculaire de Jules Verne, on peut se dire qu'est-ce qui nous reste. En fait, il nous reste des figures très très fortes parce que dans l'écriture de Jules Verne, il n'y a pas que du voyage, du spectaculaire, du rebondissement. Il y a des personnages qui sont très très forts. Et effectivement, on a d'un côté le dandy anglais qui n'exprime aucune émotion, et de l'autre côté, on a le valet français, qui est son antithèse dans la tradition de nos valets.
Oui, le valet de théâtre, exactement, ouais. Bien entendu. La pièce est jouée sans interruption depuis mai 2006. Alors, vous avez dit au départ, c'était au Lucernaire, puis au Café de la Gare. Aujourd'hui, c'est au Théâtre du Splendide. Hein.
Oui, exactement.
Les représentations sont à 20h du mardi au samedi et vous avez une matinée le samedi aussi à 17h.
Oui, ouais.
On peut dire que c'est un spectacle total et c'est surtout et d'abord une comédie. Je pense que c'est ce qui plaît tant au public. Merci beaucoup Sébastien Azzopardi. Donc je rappelle que vous êtes le co-auteur et le metteur en scène du Tour du Monde en 80 jours. D'après Jules Verne, je pense qu'il aurait été très heureux, Alain Siroux, Jules Verne, de voir que finalement c'est peut-être le théâtre qui sauve aujourd'hui son actualité.
Ah oui, c'est évident. Parce que c'est vrai qu'à lire Jules Verne aujourd'hui, on se rend compte que sur la forme, bah, il n'est plus de cette époque, si je puis dire, depuis longtemps. Et c'est
oui,
extrêmement...
Non, mais ça, soyons tout à fait honnêtes. Honnêtement, le style de Jules Verne a un petit peu vieilli aujourd'hui.
Ah oui,
c'est difficile, notamment pour les enfants. C'est pas très, très accessible.
Non, c'est très long. Il y a beaucoup de démonstrations.
Oui, voilà,
elles
ne
sont pas nécessairement toujours amusantes. Par contre, c'est sur le fond qu'il est toujours extrêmement contemporain. C'est que il exprime en fait l'enchantement du monde. L'idée que de savoir des choses vous permet de voir le monde différemment, c'est-à-dire apprendre, c'est quelque part changer sa grille de lecture. Et aujourd'hui, dans un monde où les scientifiques n'ont pas nécessairement une très grande formation culturelle et les culturels n'ont pas, ou les littéraires n'ont pas une formation du tout.
Il fait le lien entre les deux,
planètes. Et ouais. On a besoin de ça aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir des mondes séparés. La connaissance sert à comprendre et à enchanter la vision qu'on a du monde pour mieux le questionner, l'interroger et nous remettre nous-mêmes en cause. C'est ça que met Jules Verne sur le terrain. C'est ce en quoi il est le romancier de la science.
Si vous avez envie de conserver cette extraordinaire énergie qui est celle d'Alain Sirou, vous pouvez le retrouver bien entendu dans la magazine Ciel et Espace, hein, bien sûr, son magazine. Et puis je signale dans la collection Passeurs d'idées chez Honoré Champion l'ouvrage de Fabrice Boumadi qui s'appelle Jules Verne, un océan tumultueux de mots et de rêves. Eh bien, j'ai envie de dire qu'avec un titre pareil, on n'avait même pas besoin de faire d'émission parce que presque tout est résumé dans cette idée d'océan tumultueux de mots et de rêves.